Je suis Texane. Salut, Belle.
Comment ça va, ma chère Texane?
Ben, c'est ça, là. Deux filles en désespoir, là.
Ben oui, désespoir. Ne décourage pas trop, ma chère. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Cette semaine, il y a eu...
Ben, il y a eu des élections. Il y a eu tellement d'élections, on a entendu juste parler d'élections. Finalement, parce qu'il y a eu des élections municipales au Québec, il y a eu des élections aux États-Unis. Donc, ça a été pas mal ça, là, la couverture médiatique.
Oui, puis pourquoi tu dis découragement? Il y a eu des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont dû être contents cette semaine.
Coder. Coder, juste un mot, coder. Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis tellement découragée, je me dis, OK, les Montréalais vivent sur une île, oui, mais il se passe quelque chose sur cette île-là, c'est sûr, ils mettent de quoi dans l'autre.
Ben, ils doivent mettre de quoi dans l'eau. Ce qu'on leur a fait comprendre, c'est que la solution, en fait, c'était d'élire un autre personnage qui allait promettre la lune, qui allait leur promettre faire de belles promesses progressistes, faire rentrer de l'argent pour faire redémarrer l'économie. C'est un bon gauchiste qui est rentré sur l'île de Montréal. Il y a aussi l'élection à Québec aussi. Sans surprise, ouais. Ben le cher maire Labombe est rentré à nouveau. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Il y avait des gens qui s'opposaient à lui, mais soyons un peu francs, là. C'était comme très clair qu'il allait rentrer à nouveau. Un autre personnage, moi ça me fait rire parce que s'il y a certains qui vont me dire « Ah, le maire Labombe, il est bon, il est dynamique, il a de la discipline, il est ici, il s'attaque aux syndicats. » Moi, je le regarde puis je vais te dire, ça reste un bon gauchiste qui profite du système québécois pour faire avancer la machine puis faire avancer ses rêves. Puis...
Ben c'est ça, exactement. Même chose pour moi. Je me dis bon, ok, tu sais, faut que tu votes. Bon, ben on va voter pour le moins pire. Mais ça fait tellement longtemps qu'on vote pour le moins pire. Ça serait le fun à un moment donné. Tu dis un candidat que j'aime, un candidat qui me représente vraiment, un candidat qui a les mêmes idées que moi. Ça arrive quasiment jamais. Mais tu sais, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que tu sais, un gouvernement, c'est un gouvernement. Puis bon. Là, on parle de gouvernement, mais tu sais, on peut parler du municipal puis tout ça là. Mais c'est une organisation qui a pour but d'être d'avoir un petit peu de contrôle. Tu sais, c'est comme le.
En fait, ça devrait représenter la population. Puis moi, ce qui m'agace, c'est que je sais pas si réellement ces gens-là représentent. Ben, s'ils représentent vraiment la population, je commence à perdre un peu espoir envers la population, ou peut-être que je veux pas être prétentieuse, mais je trouve ça particulier parce que vraiment, on met en parallèle tous les facteurs socio-économiques qui se passent, autant au Québec, autant aux États-Unis, ou même partout à travers les pays occidentaux. Puis, à mon avis, là, la seule chose que je vois, c'est un mur. Le mur s'approche, puis on dirait que les gens, durant ce temps-là, ils vivent dans une illusion. Une illusion que peut-être ça va changer, peut-être qu'on va passer à travers sans avoir trop souffrir. Puis t'as ces gens-là qui arrivent, qui mettent encore plus d'énergie pour te faire croire à ces illusions. Alors, il y a personne, là, c'est ça, dans tous les candidats que je suivais, puis autant au point de vue municipal au Québec, que oui, il y a eu des élections dernièrement, mardi, il y a eu des élections aux États-Unis, on dirait il y en a pas un qui est sorti gagnant, qui promettait un changement vraiment concret.
Ben c'est parce qu'on dirait que les gens ont peur d'un vrai changement. C'est comme si ils veulent que ça change parce qu'on s'entend. On est capable d'identifier des problèmes, mais quand tu arrives avec une solution qui est un petit peu trop extrême, puis souvent, ben, c'est des coupures, puis des choses comme ça, puis bon, un peu plus de liberté, si on veut, ben là, c'est trop extrémiste. Et non, là, on veut pas aller dans ce côté-là. Donc, on va essayer d'aller tout le temps chercher le confort, dans le fond, la personne qui va nous rassurer. On va toujours élire la personne avec laquelle on se sent bien, tu sais, la sauce à spaghetti de notre mère, là, tu sais, tu dis, c'est celle-là que je veux, tu sais, je vais pas goûter à d'autres, c'est celle-là la meilleure. Bon, mais c'est exactement de la façon dont je le vois.
Ben regarde, moi je donne l'exemple là, qu'on a eu mardi. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ignoraient, mais il y a eu des élections au point de vue municipal également dans les grandes villes américaines, dont New York, Boston, Chicago, et également des positions de gouverneur. On sait tous que, je pense que même grande partie des Québécois ont su que le cher Chris Christie a gagné haut la main ses élections au New Jersey. Et ce fut pour moi une surprise. Ce fut pas une surprise du tout. Ce fut ouais. quelque chose qui... C'est un peu comme le maire Labonge. Je m'attendais pas à avoir un changement. Aux États-Unis, Chris Christie y est rentré haut la main. J'étais même pas surprise. Ce qui m'a beaucoup irritée, par contre, c'est de voir les médias américains, avant même que les scrutins, là, que la soirée finisse, on avait déjà mis Chris Christie comme le nouveau candidat à la chefferie du Parti républicain pour les élections de 2016. C'est le bon Dieu, c'est lui qui va sauver le mouvement républicain. Et là, ce qui me faisait rire, c'est que t'entendais ça surtout dans les réseaux dits progressistes de gauche pro-Obama. Mm-hmm. Fait qu'on dirait, eux, ils avaient déjà, là, en train d'essayer de faire boire une forme de Kool-Aid aux gens, comme quoi, hey, on a trouvé notre candidat idéal pour que Hillary Clinton puisse le planter. Puis, d'un autre côté, un petit peu plus loin, plus au sud, en Virginie, il y avait une course entre un... Moi, j'ai retenu le nom du républicain, c'est Ken Cuccinelli, puis un démocrate pro-Obama, pro-Obamacare. Puis, jusqu'à la dernière minute dans la soirée, Cuccinelli menait de quelques points, puis à la dernière minute, ben il y a la zone nord...
Toi, t'aurais voté pour Cuccinelli, hein?
Ah, définitivement.
Moi, là, moi, je l'aime pas, lui.
Non, je l'aime pas. Je ne l'aime pas sur certains aspects.
Moi, je l'aime pas du tout, mais, tu sais, vraiment pas, là. Puis pourtant, je pense que j'aurais resté chez nous.
qu'est-ce que t'aimes pas? C'est ses valeurs conservatrices, ouais, mais c'est parce que c'est extrême,
là. Exactement, mais c'est vraiment là, la moralité. Là, il est contre le sexe oral, la sodomie. Je te regarde, ouais. On s'en sac, fais-en pas si t'en veux pas. Non, mais tu sais, c'est ce côté-là, puis juste ça, t'sais, juste peut-être qu'il y a des bonnes politiques alentour de ça, juste ça, là, c'est assez extrême pour moi pour dire, OK, le gars, il est pas bien entre les deux oreilles.
OK, mais est-ce que tu aurais voté plutôt pour le candidat libertarien? Parce qu'il y avait un candidat libertarien qui a ramassé 6% des votes.
Non, je le sais, puis ça dilue le vote, puis je suis parfaitement au courant de ça, mais...
C'était pas un libertarien en passant. Il se disait libertarien, mais une des premières choses qui était en faveur, c'est d'établir une taxe du carbone, une taxe sur le millage. Alors, moi,
ça, c'est un libertarien de gauche. Non, tu sais, mais les gens ne comprennent. Tu sais, libertarien,
financé aussi par les démocrates.
Ouais.
Il y a eu du financement du Parti démocratique qui est allé. Fait que il y a eu une. Vois-tu? Moi, ce qui a fait, je t'avoue, j'ai suivi un peu la course, comme les dernières semaines, un peu la course en Virginie, parce que c'est ce qu'on appelle un swing state. C'est un État qui peut déterminer durant les élections générales, présidentielles, quel président va passer, puis quel candidat va passer, puis quel qui va pas passer. À l'époque, la Virginie a toujours été un État républicain, mais au cours des 12 dernières, je te dirais depuis Obama, depuis 2008, la Virginie a chancelante, là, elle va d'un bord puis de l'autre. Et où est-ce que ça a beaucoup changé? c'est le nord, la petite parcelle du nord de la Virginie qui est collée sur Washington, D.C. Mm-hmm. Puis ça, c'est une autre chose qui, on avait parlé auparavant, toi, tu me disais l'exode des progressistes qui partent de la Californie ou qui partent du nord et qui vont s'installer au Texas, ouais. Ben la Virginie est l'exemple parfait de ce phénomène-là. C'est le fait que des gens qui habitaient peut-être dans la région D.C., qui étaient surtaxés, qui étaient sûrs, tu sais, comme ils étaient super contrôlés, puis on dit, la chenoute, nous, on va aller de l'autre bord, ça va nous coûter moins cher, on traverse la frontière, on s'installe en Virginie, mais leur mentalité n'a pas changé. Et là, ils sont en train drastiquement de changer la carte électorale de cet État-là. Puis moi, je t'avouerais qu'être dans le sud de la Virginie, d'avoir passé toute ma vie en Virginie, d'avoir été toujours une personne pro-conservatrice ou limitation du gouvernement, puis voir ce phénomène-là, je serais en beau fusil.
Ben c'est parce que, oui, exact. Ben, puis le problème qu'on a, nous, ici, au Texas, c'est que dans les grandes villes, c'est très bleu.
Oui.
Comme ici, le comté de Harris, où il y a la ville de Houston, c'est très, très, très démocrate. Mm-hmm. Mais dès que tu sors un peu en campagne, où la majorité des gens ne sont pas, parce qu'ils sont dans les grandes villes, dans les grands centres, ben là, tu vois, c'est vraiment très... Bon, on dit que c'est redneck, c'est très républicain. Mais le problème, c'est que les gens qui arrivent de la Californie, puis j'en ai rencontré ici en plus, qui arrivent de San Diego, on me dit, ah, qu'est-ce qui t'a amené au Texas? On me dit, les opportunités. Mais ils s'aperçoivent pas que la raison pour laquelle on a des opportunités, c'est parce que on a fait des choix différents.
Oui.
De la Californie, mais ils vont venir ici, ils vont continuer de voter démocrate. Puis ça, là, ça me dérange, je peux pas savoir à quel point.
Et de pousser leur agenda, de pousser l'agenda progressiste, puis d'arriver avec des valeurs plus collectives, pousser sur des idéaux qui sont plus libérales, mais dans le sens, c'est comme ils vont commencer à vouloir imposer l'avortement, justement. Il y a un gros débat au Texas mm-hmm. concernant l'avortement. Puis t'as les deux pôles extrêmes, là. T'en as un qui est quasiment Perry, là, votre fameux gouverneur qui s'est un petit peu échappé la dernière fois par rapport à l'avortement. Mais t'as l'autre extrême, t'as une hyper progressiste qui est de même qui est en train de prôner l'avortement jusqu'à terme.
Mais juste pour dire l'histoire de Perry pour que les auditeurs le sachent, c'est qu'il a dit que ça n'a même pas de bon sens. J'ai même pas envie de le dire. C'est que il a dit que l'avortement c'est très mauvais parce que ça enlève les droits aux hommes. Bon, jusque-là, je comprends, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Il peut avoir une certaine, cohérence. Mais vas-y, je te laisse.
Mais il a ajouté que ça pouvait, en fait, faire en sorte que les hommes switch à l'homosexualité.
OK, ça, c'est de la folie monumentale. Non, c'est ça. Vois-tu, c'est ça que j'ai... Puis, je reviens à Cuccinelli. Cuccinelli, c'était un candidat, je pense, que sur certains points, il était très cohérent, très pertinent. Ouais. En fait, Cuccinelli, c'est le premier à avoir levé la main pour se battre contre la réforme d'Obamacare. Puis, on regarde les résultats, qu'est-ce qui arrive. Je vais pas retourner sur le débat là-dessus, mais on regarde tous que c'est une débâcle. C'est catastrophique, ce qui se passe avec... Même les pro-Obama sont quand même... sont en train de virer de bord parce qu'ils se disent, coudonc, je me suis fait avoir, là. C'était un des premiers à avoir l'idée, ce mouvement de repousser ou d'abolir le projet d'Obamacare. Ce côté-là, je le supporte. L'autre côté... beaucoup plus religieux, droite religieuse. Non, ça, je suis désolée. Chacun a le droit de pratiquer ses valeurs et tout ça, en autant que ça ne va pas au-delà de sa zone, là. Faut respecter les autres. Là, c'était vraiment moralisant, fatigant. Et oui, je l'ai échappé, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est les dernières semaines où est-ce qu'il commençait à se battre contre Obamacare.
Ouais.
Et je trouvais qu'il y avait une belle opportunité parce que justement, l'autre était pro-Obama, pro-Obamacare. Dimanche dernier, il avait invité même Obama à venir stimuler les gens pendant que il y avait quoi, j'ai entendu dire, je pense que c'est 250 000 ou peut-être dans ces coins-là qui venaient juste de recevoir une lettre en Virginie leur disant que leur fameuse assurance, couverture d'assurance était annulée à cause du nouveau plan. Je trouvais qu'il y avait une belle opportunité pour, tu sais, comme permettre justement que la population fasse voir à l'establishment c'était quoi leur point de vue. Ils n'ont pas gagné. C'est l'establishment démocratique qui a gagné, mais tu sais, encore, je parle... Oui, vas-y.
Mais, tu sais, moi, ce qui me dérange beaucoup, puis j'étais super excitée à l'idée... en fait... Pendant les dernières élections présidentielles, j'étais contente de voir le travail de Ron Paul qui avait fait à l'époque, en fait, pour changer un peu ces rhinos-là, c'est ça, ceux qu'on appelle les rhinos, les
républicains in name only, ça veut dire, c'est ça, c'est des gens qui se disent républicains. Je pense que le meilleur exemple pour moi, c'est Chris Christie.
Ben oui, lui en est un, mais tu sais, mettons, ben, même pour moi, Cuccinelli, ça en serait un.
Ah oui?
Oui.
Dans ben, quel sens? Ben, c'est parce que tu mélanges, c'est ça. Je penserais pas parce que il est très conservateur, moral. Mm-hmm. Ça, c'est une affaire aussi, il faut être capable peut-être de faire la distinction, c'est qu'il existe trois types à peu près de républicains. T'as le républicain Rhino, qui, comme je te disais, c'est celui qui se colle beaucoup plus vers la vision progressiste, qui va avoir des tendances à être pro-gouvernement,
interventionniste.
Puis, il va appliquer il va être en accord sur certaines réformes, telles que le contrôle des armes, le service public en santé, les choses comme ça. Mais il va avoir quand même deux, trois petites valeurs conservatrices. T'as aussi le fameux néocon. Le néocon, c'est encore un aspect très interventionniste. Ce qu'on retient généralement, c'est des gens qui sont pro-militaires, pro-contrôle. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est George Bush, le père et le fils, mais le fils, tout de suite, on l'a vu après le 11 septembre, puis il y en a qui disent « Ah, ben c'était justifié », mais tout de suite après le 11 septembre, on a mis le Patriot Act, on a mis plein de mesures pour, justement, on est rentré en guerre et tout ça. C'est très néo-conservateur. Et t'as l'autre côté qui est le républicain constitutionnaliste dash libertarien. Puis lui, ça reste une petite frange. Tu sais, elle a toujours existé, mais on dirait que depuis la création du Tea Party, là, ils sont en émergence. Puis ce mouvement-là, il est il est vraiment là en mouvant, c'est comme une espèce de petit volcan qui se prépare, puis il y a beaucoup de gens à l'intérieur du Parti conservateur ou républicain, je veux dire, qui essaient de l'écraser parce que ça les dérange.
Ben c'est ce que je te disais, moi, ouais. dans le temps que Ron Paul avait fait son petit travail, parce que dans le fond là, c'était vraiment ça son but, c'était d'amener des idées puis tout ça. Puis je pense que ça a fonctionné, il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus que ben oui, ça les représentait beaucoup plus ça que ce que les républicains, les vieux républicains essayaient de faire. Puis c'est pas des, tu sais, je les écoute parler. Bon, il y a des Ted Cruz, il y a Rand Paul, tu sais, il y en a une couple comme ça. Je trouve tellement qu'ils font du sens que
ouais.
Je vois pas comment on pourrait les contredire. C'est tellement, c'est pragmatique, c'est rationnel, c'est ça que je veux.
Mais c'est parce qu'ils font peur. Ils font peur. Puis je reviens avec Cuccinelli. Cuccinelli, je pense que lui, c'en est un qu'on a été capable de recycler. Dans le sens que oui, peut-être à cause de ses points de vue religieux, il y avait plus le côté néocon qui sortait en lui. Mais au cours des derniers mois, tu sais, quand il a commencé à se présenter, je pense qu'il a commencé à changer son discours. Il a peut-être pas changé ses valeurs, mais son discours. Les dernières semaines, moi, j'en ai pas entendu ces histoires-là de ses croyances, quoi que ce soit. À moins que je me trompe, mais il me semble que c'est pas ça qui ressortait de lui. Là, il commençait vraiment à s'attaquer. Son cheval de bataille, c'était essentiellement Obamacare, puis comment il faut faire pour l'abolir et tout ça. Oui. Puis c'est là que moi, j'ai commencé à embarquer. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un vrai libertarien ou un vrai constitutionnaliste, je le sais pas, mais c'était le meilleur candidat qu'il y avait. Et là, malheureusement, ben on se ramasse avec certainement le pire, là, parce que... Puis, parlant de ça, il y a aussi le maire de New York, qui a Bloomberg, qui se disait un indépendant. Il a été pendant longtemps associé au mouvement républicain. Après, il est devenu indépendant. Lui, il a fait ses deux mandats, fait que c'était fini pour lui. Et il y a un fameux... lui, là, c'est l'extrême gauche qui est rentré. C'est une personne... Là, faudrait que je cherche son nom, mais ce maire-là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il avait passé sa nuit de noces dans la région de Cuba. C'est un gars qui a toujours prôné des valeurs très, très socialistes. Et on se ramasse avec un maire comme ça dans une des plus importantes villes des États-Unis. Et les gens, je pense, qui ont bu le fameux Kool-Aid parce qu'ils disaient « Ah, c'est une image... »
Ah, bon, ça, je pense que je vais l'essayer.
« La collectivité, le support. » Tu sais, c'est comme toutes les grandes idées progressistes. Là. Ils faisaient la promotion là-dessus. Fait qu'il est rentré haut la main... Puis, moi, j'ai juste hâte de voir quand il va se mettre à mettre en pratique ses idées, quelles seront les réactions des New-Yorkais. Parce que il y a des idées qui sont assez drastiques. Entre autres, il y avait des questions de taxer les secteurs riches de New York, de réduire l'effectif policière, En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il voulait prendre le plan de son... pas de son prédécesseur, mais celui qui avait participé durant le September 11, Giuliani.
Oui, c'est ça.
Bon, il avait, lui, comme nettoyé la ville de ses crimes et tout ça, puis il avait dû imposer peut-être une méthode un peu plus stricte. Ben là, lui, il a décidé de comme faire le revers, l'inverse. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai juste une petite idée que ça va ressembler de plus en plus à ce qu'on observe à Chicago. Fait que ça risque d'être assez palpitant.
Chicago, Détroit, des beaux endroits.
Oh mon Dieu. Puis tu parlais juste d'une chose. Puis ça, tu parlais de Houston qui est viré bleu, qui est viré démocrate. Moi, je pense que c'est un phénomène dans chaque État. C'est immanquable. Même ici, petit État de l'Arkansas, qui a, tu sais, on n'est pas un gros État, puis on n'a pas beaucoup de force. Mais je regarde où est-ce que il y a une concentration de démocrates. C'est dans la ville de Little Rock. Tout ce qui est autour, c'est une zone rouge. À partir du moment où ce que tu sors un peu de cette zone urbaine, on dirait que la mentalité est différente.
Ben même nous, on n'est pas dans le comté de Harris, on est en bas, mais même si on est très très près, mais ici c'est très très républicain, puis tu fais 5 minutes de voiture, puis ouf, là t'as toutes les démocrates, puis tu peux vraiment le voir sur l'autoroute avec les stickers, parce que bon. C'est bien populaire maintenant d'avoir ton sticker de bon, moi j'ai mon sticker Tea Party, mais il y en a qui ont leur sticker d'Obama.
Il y en a encore de Cheney. Moi j'ai tellement ri. Bush Cheney, j'ai vu ça la semaine passée. J'ai dit, mon Dieu, lui, il a oublié de l'enlever. Non, mais c'est vrai que les stickers ici, c'est très populaire. Tu reconnais facilement. Moi, ça me fascine parce que c'est vrai, quand tu te promènes sur l'autoroute, t'es capable de savoir la pensée des gens juste en lisant les bumper stickers. Puis moi, des fois, je m'amuse, là, juste à lire parce que c'est tellement drôle, des fois. Mais de fait...
Puis là, tu le regardes, tu dis, ah, tu sais, de ça que t'as l'air.
Mais de fait... moi je trouve pas ça anormal d'avoir plus de gens progressistes dans les grandes villes, parce que ça va un peu toucher notre deuxième segment, mais c'est un peu parce que ces gens-là de nature ont beaucoup plus de dépendance au système que des gens qui sont à l'extérieur des grandes villes.
Exactement.
Ils doivent dépendre de tout pour survivre, même s'ils se disent progressistes, la technologie est là pour nous, puis tout ça. Demain matin, on met une switch off sur ces grandes villes-là. Je te donne pas 2 jours que ça va être l'enfer, là. Tu vas en campagne, les gens de nature sont beaucoup plus indépendants et ils vont trouver des façons, des alternatives pour survivre. Fait que pour eux, peut-être le besoin d'avoir un gros gouvernement est pas aussi important.
Non, c'est ça. Puis c'est vraiment la mentalité du « achalez-moi pas ».
Oui.
Tu sais, tu vas la retrouver dans les campagnes. Tu vas la retrouver...
Ben, achalez-moi pas au point de vue du gouvernement, mais l'esprit communautaire est beaucoup plus fort à quelque part en campagne qu'il est en ville. Je sais pas, moi, j'habite dans un complexe d'appartements. Je connais les gens à côté. Je dis pas que s'il arrivait quelque chose, on pourrait pas supporter, mais c'est pas la même mentalité. De un, il y a beaucoup d'allées et venues. Là, les gens viennent et partent. C'est pas du tout la même chose que quand t'es en campagne, puis tu commences à vraiment, tu sais, fraterniser avec le monde autour de toi, puis qu'est-ce que tu fais, toi, puis des échanges, des choses de même. C'est pas du tout la même culture.
Ben c'est pas la même, c'est ça. C'est pas la même mentalité. C'est vraiment différent. Mais à l'intérieur des villes, tu sais, comme mettons, même on va regarder le système scolaire, OK? À l'intérieur de la ville de Houston... Mm-hmm. C'est très mauvais. Donc, les écoles sont très mal cotées. Parce que, bon, ici, on cote les écoles. Mm-hmm. Ils sont très mal cotées. Et tu sors, tu ne fais que sortir de la grosse ville. Tu t'en vas en banlieue. Et là, les écoles sont excellentes.
Oui.
Et je trouve ça vraiment spécial parce que c'est comme si... Puis là, je peux pas te dire la raison, le pourquoi, mais c'est comme si c'est t'as une corrélation entre du fait que tu sais, les personnes qui sont pauvres souvent vont être démocrates, souvent vont avoir des mauvaises écoles.
Ben la raison aussi, c'est ils sont pauvres, sont dévalorisés, ils ont besoin d'un support. Qui leur donne le support, c'est l'État. L'État, en ce moment, qui est très populaire, qui aime donner, c'est les démocrates. C'est ça, l'association. Puis, c'est pas pour dire que les pauvres sont responsables de ça, mais c'est comme un cercle vicieux. Puis, c'est vrai, puis regarde, tu vois ça à Houston, tu vas voir ça à Montréal, tu vas voir ça un peu dans les grandes villes, tu vas voir ça à Chicago. À Chicago, on va dire, le centre-ville, c'est des taudis, là. C'est pas safe. Tu vas voir ça en Nouvelle-Orléans, moi je l'ai vécu, même après Katrina, on le voit encore. Puis le pire, c'est qu'il y a de l'argent qui est investi dans ces secteurs-là, mais on dirait qu'elle est gérée de façon à ce que ça colmate temporairement le mal. Mais à long terme, les résultats changent pas. Il y a rien qui change. C'est un peu comme l'espèce de caricature que j'ai dans la tête. C'est, tu vois, il y a plein de gens qui sont pris dans un trou, dans un gros précipice. Puis, t'as un groupe d'individus qui lancent la nourriture, mais qui laissent les gens dans leur trou. Puis, de l'autre bord, il y a des gens qui courent, qui vont chercher une échelle pour les aider à monter. L'aspect progressiste, souvent, malheureusement, c'est on va juste s'assurer de vous lancer l'essentiel pour que vous puissiez vivre. Mais ils vont même pas avoir l'idée de dire, tu sais, on va faire des initiatives. T'sais, on va même pas faire des programmes, on va prendre des actions, on va faire des gestes pour que tu
puisses être capable de t'en sortir. Parce que, puis tu sais, mais ils ont pu... Tu sais, souvent, tu vas essayer de faire de la charité à ces personnes-là. Tu vas essayer de les aider. Puis tu vas dire, ben regardez, moi, j'aime pas ça donner de l'argent. Je veux te donner du temps ou quoi que ce soit, de l'éducation ou whatever. Mais c'est plus accepté, hein. Maintenant, c'est difficile de donner autre chose que de l'argent. On ne l'accepte plus. On n'accepte plus l'aide qui n'est pas monétaire.
Ben c'est encore une question, c'est parce que puis en plus l'argent, si tu la donnes pas en main propre, faut que tu la donnes à un non-organisme ou tu donnes, tu sais, c'est comme si le côté direct, la relation directe avec l'individu, la personne dans le besoin, a été aliénée, puis maintenant il faut absolument qu'il y ait une organisme ou une entité quelconque qui est au-dessus de là qui va chapeauter, puis c'est de même que ça marche. Et je pense que c'est la culture justement étatique qui a été établie même dans n'importe quelle structure, c'est maintenant...
C'est une tierce partie, c'est ça.
Exactement.
Ça te prend une tierce partie, une organisation, quelque chose de central, mais de toi, là, de ton propre gré, elle est de donner de l'aide, là, c'est quasiment... C'est mal vu. parce que c'est pas accepté. De l'autre côté, on l'accepte plus. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis c'est là-dessus que moi, j'aimerais, tu sais, quand on parle de libertarien, moi, j'ai toujours cette idée-là dans ma tête. Il y en a qui, quand ils parlent de libertarien, ils voient toutes sortes d'autres choses, là. Mais moi, quand je parle de libertarien, c'est ça que je vois. C'est de l'entraide communautaire. C'est vraiment des gens qui, de leur plein gré, vont aider les autres. Puis qui vont développer ça parce que, bon, ça s'est perdu, là. J'en suis vraiment consciente, mais de faire un monde meilleur, tu sais, je suis très idéaliste quand je dis ça, mais en faisant des actions directes, je pense que ce serait une solution, là.
Oui, tout à fait. Vois-tu, regarde, notre prochain segment va sûrement parler, c'est pas directement sur ça, mais on va parler avec un survivaliste qui parle justement de différentes façons de devenir autonome, de contribuer à sa communauté directement. Puis, on va faire une pause, on se reparle dans 3 minutes.
Entrepreneur et vous avez une vision planétaire? Les gens chez eVision Expert vous aideront à vous faire connaître à travers le monde. Gestion de réputation en ligne, référencement, conception et réalisation de sites Internet pour que vous puissiez vous concentrer à ce que vous faites de mieux. eVision Expert, 1-866-623-2532. Sur le réseau H2O ou sur le site internet libertarien avec un S.com. Belle, tu te souviens que v'là quelques semaines, il y a un blogueur au Québec qui a dit « Bah, Texan, on sait bien, elle, c'est une prepper du Texas qui pense que il va avoir un cataclysme, puis...
Le ciel va nous tomber sur la tête. Ah, puis j'étais inclus, moi aussi. Liberty Bell, puis Texan, on est deux prepper extrémistes ouais. Qui pensons que... Le monde va nous tomber, là.
Puis c'est ça, puis on est en train de se préparer là, pour ça. Puis en fait, j'ai comme... Je sais pas pourquoi ça a ce petit côté-là que les gens vont dire que quand tu veux te préparer, c'est en fait parce que tu es un conspirationniste, tu crois qu'il va avoir quelque chose de vraiment très grave qui va arriver. Moi, j'ai toujours été fascinée par ce côté, les gens qui font du survivalisme, donc des gens qui s'organisent par eux-mêmes, puis tout ça. J'ai toujours été fascinée, puis même, ça n'a même pas rapport avec la politique. En fait, c'est depuis que je suis toute petite, ça a toujours été un rêve. Et bon, c'est sûr que j'ai commencé, puis tout ça. Bon, j'ai des poules, puis des lapins, puis un jardin, puis on veut avoir des panneaux solaires, puis tout ça. Puis ça a grandi, notre truc. Mais c'est vraiment comme c'est comme un hobby. C'est pas nécessairement dans le but qu'un jour ça va péter, mais bon, c'est une préparation. Et je voulais parler, tu me demandais, quand je t'ai dit j'aimerais ça qu'on parle de ça, tu m'as dit, ben là, ça existe-tu ça, des survivalistes au Québec? J'ai dit. Oui,
ouais, c'est une des premières questions que je me suis posée, de fait.
Et j'ai dit, ben oui, j'en connais un. Et je suis allée lui parler, puis il a accepté d'être avec nous. Il s'appelle Vic Survivaliste. Bonjour, Vic.
Bonjour.
Donc, Vic est dans la région de Montréal. Et j'aimerais ça en premier qu'on essaie de... ça serait quoi la définition simple de ces... Qu'est-ce que c'est réellement le survivalisme?
Il y a plusieurs sortes de définitions, dépendant comment on considère notre approche. Mais globalement, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le survivalisme, c'est un moyen de prendre sa vie en charge, de développer son autonomie et de la maintenir, et cela en toutes circonstances, du moins on le souhaite. C'est-à-dire que si tout va bien, on est déjà autonome. Si quelque chose va mal, on a les outils, on a les moyens, on a les protocoles pour répondre à la situation. Et si ça va vraiment, vraiment mal, ben c'est la même chose. Autrement dit, c'est de se donner les moyens de ne pas dépendre de la collectivité, du gouvernement, des ONG, et j'en parle.
Donc, si on revient à la base, en fait, c'est de dire qu'on est indépendant de tout ce qui est alimentaire, donc la nourriture, tout ça, l'énergie aussi, donc d'être capable de se chauffer, se climatiser, ça dépend où on habite. Puis dans l'énergie, j'inclus aussi l'essence. C'est vrai, bon.
S'il y a de l'essence qui est produite, si on imagine une situation où on a un effondrement économique et technologique, là, l'essence va être hors de prix. Alors, il faut peut-être aussi prévoir d'autres moyens de se priver de l'essence. Ça va jusque-là, l'autonomie.
Moi, je suis juste curieuse de savoir, Vic, comment t'es venu à devenir un survivaliste? Moi, c'est là parce que Julie et moi, on a une vision libertarienne, mais on l'a acquis en sortant du Québec. Puis je dis pas pour autant, je te dis, moi, je veux pas t'associer à aucun mouvement politique, quoi que ce soit, mais cette mouvance-là, qui est vraiment, qui va au-delà d'un parti politique ou d'une vie, d'un mouvement quelconque, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que tu as créé ça?
Je vais parler évidemment que pour moi, parce que le cheminement de chacun. Dans mon cas, je dois préciser, j'ai 48 ans. Dans les années 80, au début des années 80, je terminais mon secondaire. J'entrais au cégep en 83. Et c'était l'époque, si on veut, de la guerre froide et des menaces de guerre nucléaire. C'était la folie à l'époque. Et puis, moi, j'étais au cégep à ce moment-là. Et avec ma conjointe à l'époque, parce que j'étais déjà en couple, j'envisageais des scénarios catastrophes. Si ça tombait quelque part, qu'est-ce que j'allais faire? Et puis, à travers ça, j'ai été réserviste dans un régiment blindé. Donc, j'en ai appris un peu plus sur les effets des bombes atomiques, sur la guerre nucléaire en tant que telle. Et ça m'a rendu très conscient et très sensible à la possibilité que ça arrive. Mais de tout temps, je dirais, je me suis toujours questionné sur ce que je pouvais faire si telle chose arrivait. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à rouler, quand j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, je roulais sur les petites routes de campagne en Mauricie. Et il y a souvent des petits ponceaux qui, des fois, tiennent par la peur. Et puis, je me demandais qu'est-ce qui va arriver si le pont tombe. Je roule dessus, il s'effondre, ma voiture tombe dans l'eau. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'en sors? Est-ce que j'ouvre les fenêtres, la porte, dès que je peux? Ou si au contraire, je me laisse caler dans le fond, j'attends que l'auto se remplisse pour ouvrir la fenêtre? C'est des questionnements que je me faisais, je dirais, pas pour m'amuser, mais simplement, peut-être même me divertir. Pour pouvoir me dire, je suis prêt. Et ils ont continué comme ça pendant des années, des années, des années, jusqu'à temps que je décide de passer aux actes. Puis on parle pas d'un crime, là. On parle d'une préparation concrète.
Et ça, c'est quand, durant les, un peu après les années, durant les années 80, 90, que tu as commencé à faire ça?
Ah, c'est venu bien plus tard. J'ai toujours, disons, ramassé un peu de stock. Je me suis toujours assuré d'avoir des réserves de nourriture. Pas des réserves à très longue conservation, mais des réserves quand même de nourriture. Et puis, mais tu sais, je me suis toujours arrangé pour être capable de me démerder. Mais à la naissance de mes enfants, ben de ma première, en fait, ça m'a donné un grand coup de poing dans le ventre. Parce que je voyais que elle, ma petite, qui était minuscule, était complètement dépendante de sa mère. Même pas de moi, là, de sa mère. Là, le père, au début, là, dans les premiers mois, on n'a pas grand-chose à faire. Notre job, c'est d'aider la mère, pas le bébé, de jouer avec, là, mais bon. Je voyais la dépendance absolue de ce petit être-là, et j'en étais responsable. Et c'est là que ça m'a donné le coup de pied dans le derrière pour hâter mes préparatifs. Étant donné que je me préparais à me préparer depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais, ça a été rapide. En quelques mois, j'avais mon année de nourriture, mes armes, mes munitions, mes outils, mon matériel, j'étais fin prêt.
Mais là, quand on parle de préparation, je veux dire, mettons dans un monde idéal, quelqu'un qui veut partir demain matin, qu'est-ce qu'il doit, c'est quoi les étapes à suivre?
Dans un monde idéal, si on veut revenir à un monde idéal, paradoxalement, il faudrait revenir peut-être une centaine ou 150 ans en arrière. On se rappelle que à l'époque, la majorité des gens vivaient à la campagne. La très grande majorité de la population était des agriculteurs. Moi, mon grand-père, c'est un agriculteur. Il est né sur une terre, il a vécu une partie de sa vie sur une terre. Et puis, j'ai déjà demandé de me raconter comment il vivait. Le magasin général, c'était pour acheter ce qu'il ne produisait pas. Le reste, ils étaient autonomes. La viande, ça venait de la ferme. Les légumes, les patates, les carottes, tout ce qu'ils mangeaient, ça venait de la ferme. Le lait, ça venait de la ferme. Ils faisaient leur fromage aussi à l'époque. Ça venait de la ferme. C'est les surplus qui étaient vendus. Et puis, eux achetaient les surplus des autres que eux-mêmes ne produisaient pas. À la base, c'est ça. Je dirais, l'objectif ultime du survivalisme, c'est-à-dire revenir à ce que nos ancêtres faisaient.
Mais à quelque part, c'est être rétrograde, penser comme ça. Moi, je me mets dans la tête des personnes là, qui disent, ah, maintenant, on a tout, on a la technologie, on a ça. Les gens se croient indépendants parce que maintenant, c'est tellement facile d'acquérir des choses. Mais d'un autre côté, ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est hyper dépendant du système. Hyper. Je parle juste à l'île de Montréal. Demain matin, il y a une panne d'électricité pendant quelques heures ou quelques jours. Ça va être l'hécatombe, là. Ça va être épouvantable. Parce que les gens ne savent plus.
Toutes les grandes villes, Montréal, New York, Washington, Paris, Londres, Tokyo, toutes les grandes villes sont extrêmement dépendantes de l'énergie. Mais je voudrais revenir sur ce que je disais pour être bien précis. Je parle pas d'un mode de vie technologiquement équivalent à celui du 19e siècle. Je parle d'un niveau d'autonomie comparable à celui du 19e siècle. Par exemple, mon grand-père, quand il était petit, s'il se déplaçait, c'était en carriole avec un cheval. Bon, je dis pas qu'on doit tous avoir un cheval puis vivre à la campagne, mais si on a besoin de se déplacer, de prévoir des moyens de transport qu'on va être capable nous-mêmes soit de produire, soit d'entretenir. Par exemple, si quelqu'un veut continuer à fonctionner avec du carburant fossile, ben peut-être qu'une partie de son champ pourrait être consacrée à fabriquer du biodiesel, par exemple. Ou une grande partie de son champ. Et son voisin lui produira autre chose, puis ils s'échangeront des trucs. Mais bon, c'est peut-être trop spécifique, là, mais en gros, c'est de développer son autonomie à tous les plans.
Ben, en fait, c'est pas être trop... Non, c'est très intéressant. Mais à l'étape actuelle, t'es rendu où à peu près? Je veux dire, à quel point ta vie... est dépendante ou indépendante, à quel point tu es indépendant du système en ce moment, aujourd'hui?
Je suis, je dirais, 100% autonome pour une période d'environ 2 ans.
Et après le 2 ans, c'est quoi qui manque?
Ça va être la nourriture.
Okay.
La terre et la nourriture.
OK. Donc, il n'y a pas il y a de la nourriture sèche, mais il n'y a pas d'animaux réels, c'est ça?
C'est ça. Ben, à part mon chat, okay. Mais ma fille s'oppose beaucoup à ce qu'on mange. <Dieu. rire> Mais j'ai pas la terre, quoi, qu'on est. Ça fait 1 an qu'on est en train de chercher quelque chose. On a passé proche d'acheter une terre de 25 hectares avec une maison énorme. Ben, on n'ira pas. Mais on est en démarche. D'ici quelques mois, on va avoir notre terre.
Alors, c'est dans les plans. En ce moment, ce que tu veux dire, c'est qu'en ce moment, actuellement, c'est ta situation, mais toi, tu es encore en processus pour devenir encore plus indépendant. Au point de vue de l'énergie, l'électricité, tout ça, qu'est-ce que tu as comme alternative? Ou qu'est-ce que tu as l'intention sur ta nouvelle terre? Qu'est-ce que tu voudrais implanter de façon à être le plus indépendant possible?
Bon, d'abord, l'électricité, c'est la meilleure invention depuis la découverte du bouton 4. On peut dire ce qu'on veut, mais l'électricité, c'est le confort. C'est des possibilités quasi infinies. Maintenant, ce qu'il faut réaliser quand on parle de l'électricité, c'est que l'électricité est une forme d'énergie. Ce n'est pas une source d'énergie. Les sources d'énergie, ultimement, elles sont, il y en a deux. Le mouvement et la chaleur. On transforme le mouvement en chaleur, en électricité, en ce qu'on veut, ou on transforme la chaleur en mouvement, en électricité, ou en ce qu'on veut. Ça, c'est là qu'est le problème. Il faut avoir des moyens de produire soit du mouvement, soit de la chaleur sur notre installation, sur notre ce qu'on appelle la BAD, la base autonome durable, qui est, dans le fond, une ferme autonome habitée par des survivalistes.
Donc, quand on parle de mouvement, bon, on parle d'éoliennes et ça, et quand on parle de chaleur, on peut parler de panneaux solaires. Donc, si quelqu'un a et une petite éolienne, parce que je sais qu'il y en a des petites, et les panneaux solaires sur le toit de la maison, en fait, le problème qu'on voit, nous, c'est le fait d'être obligé d'avoir des batteries, puis c'est ce qui coûte très cher, puis c'est ce qui fait, parce qu'en fait, ta batterie, elle ne dure pas à vie. Donc, il faut que tu la changes, et donc, tu n'es jamais 100% indépendant.
Qu'est-ce que vous pensez de la géothermie aussi? Parce que je pense que ça, au Québec, c'est assez populaire. Est-ce que la géothermie peut être faite de façon autonome aussi?
Oui, il y a toutes sortes d'approches. Je veux dire, il n'y a pas une approche et un modèle qui est parfait, et les autres sont moins bons. Tout doit se complémenter. Maintenant, pour les piles, c'est pas aussi tragique que ce qu'on dit. Si on veut y aller avec des piles au lithium hyper performantes, ça coûte un bras et ça dure 5 ans. Par contre, si on y va avec la bonne vieille approche, vous savez, les voitures électriques, ça fait plus de 100 ans que ça existe.
Oui.
La première qui a été conçue fonctionnait avec une batterie au fer nickel. Avec de la soude caustique, un mélange de tout ça. Je suis pas spécialiste là-dedans, là. Je pourrais l'expliquer si je prenais le temps, mais bon. Et puis, cette pile-là va durer 50 ans.
Elle a une durée de vie.
Oui. Si on remplace l'acide, il y en a toujours un peu plus fort, on remplace, ça va durer 50 ans. Et cette voiture-là, produite il y a à peu près 100 ans, roule encore aujourd'hui avec les mêmes batteries.
Oh, wow!
Elles ont été entretenues, elles ont été nettoyées. Donc, il y a ce que le commerce nous propose, et puis il y a ce que des chercheurs, eux, ont développé. La première pile, c'est fer nickel, puis pour une maison, elle serait parfaitement appropriée. Sauf que cette pile-là, doit être déchargé lentement, ce qui est parfait pour une maison. On ne demande pas des accélérations à une maison, on demande C'est la cuisinière électrique, si on cuisine à l'électricité. Ça va être la sécheuse, bon, le chauffage, bon, on s'entend là. Mais aussi, cette pile-là va perdre à peu près 4% de son énergie par jour. Contrairement au lithium qui perd un demi ou 1%. Bon, la perte est plus grande, mais elle est remplacée au fur et à mesure. Et ces piles-là durent au moins 10 fois plus longtemps que les piles au lithium. L'un dans l'autre, on est gagnant.
Ben oui, c'est ça. Ben, je vais regarder. Moi, de ce que j'avais vu, c'était que c'était plus difficile. Puis dans le fond, notre but, c'était d'être indépendant. Sauf que on se disait que peut-être que pendant la nuit, quand on n'est pas capable de produire notre propre énergie, on pouvait vendre les surplus pendant le jour et la nuit, en fait, racheter à la compagnie. Mais ça nous mettait pas complètement indépendants, puis on n'était pas vraiment d'accord avec ça. Et là, mais quand on parle, bon, on a de la nourriture, tout ça, on a notre énergie et on a de l'essence ou bon. Et là, ça prend deux autres choses. Ça prend des aptitudes, des habiletés, des compétences, parce que bon, il y a plein de choses qu'on doit savoir. Puis je pense qu'une des compétences qu'il faut avoir, c'est ben en fait, faut que tu sois débrouillard. T'as pas le choix d'être débrouillard. Puis c'est de savoir bon en temps de crise, bon de savoir comment se soigner.
Oui, absolument. Ou de
Pour
connaître
moi,
un
c'est
bon
une des choses.
médecin.
Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, d'être capable de se soigner, d'avoir, je sais pas moi, sur la terre, des herbes qui font, bon, un peu n'importe quoi, là, antibactériens, blablabla. Mais je pense que ça, c'est vraiment une compétence de savoir quoi faire avec ces herbes-là. Donc, d'aller chercher des habiletés, savoir comment faire. Et une autre chose qui est très importante, c'est être capable de se défendre.
Absolument. C'est la base de tout. En survivalisme, on nous le reproche au Québec, en France, dans les pays où il y a des contrôles serrés sur les armes, on nous le reproche beaucoup parce que c'est la police qui doit nous défendre.
Même aux États-Unis, je vous avouerai, j'avoue qu'aux États-Unis, ça devient de plus en plus la même situation, même s'il y a un deuxième amendement, là, mais c'est un fait aussi, oui.
Ben, de toute façon, ce ne serait pas la première fois que le gouvernement Obama passe par-dessus les.
On n'ira pas dans cette direction-là. Non, mais je te laisse. Alors, mais au point de vue des armes, au point de vue de la protection, quelle est ta stratégie, toi, étant donné que tu es dans un contexte, un environnement justement qui est très strict?
La première chose, la plus importante, c'est paradoxalement de respecter tout ce que le gouvernement nous dit de faire
Oui.
en matière d'armes, c'est-à-dire l'entreposage sécuritaire conforme à la loi, le maniement sécuritaire conforme à la loi, l'usage, bon, on s'entend là, on respecte la loi de manière absolue, parce que comme je le disais dans une entrevue à TVA l'an dernier, la dernière chose qu'un survivaliste souhaite, c'est de se faire enlever ses outils ou de les perdre. Et les armes à feu, c'est un outil pour un survivaliste. C'est pas le seul, c'est un des importants, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est extrêmement important parce que c'est une source de protéines au besoin et parce que c'est une source de plomb pour des gens qui voudraient s'en prendre à notre vie ou à celle de notre famille.
Ouais, mais en fait, le problème avec ça, c'est que vous n'êtes pas supposé pouvoir vous défendre. Oh.
Oh, au contraire, au contraire. La loi canadienne, puisqu'on vit encore dans le Canada, malheureusement. Mais on n'ira pas sur ce chemin-là.
Ben, on connaît vos petites opinions par-ci par-là, là. On se fait une idée.
La loi canadienne ne nous empêche pas de défendre notre vie ou de défendre la vie de quelqu'un qui est menacé. La vie doit être raisonnablement menacée, c'est-à-dire que la personne qui sent qu'il y a un danger doit avoir raisonnablement, doit avoir une impression raisonnable de la situation. Autrement dit, un schizophrène qui se ferait des idées, ce ne serait pas raisonnable comme
Ça
perception.
marche pas, ouais, c'est ça.
Non, on ne pourrait pas l'invoquer. Là, il faudrait invoquer la folie. Ça, c'est une autre affaire. Mais Ben, je veux dire, c'est le gros bon sens là-dessus. Si quelqu'un nous attaque avec une arme, c'est légitime pour nous de riposter avec une arme. Si la personne ne nous attaque pas avec une arme, ça va être difficile de justifier de notre part l'usage d'une arme.
Non, c'est ça, c'est pas comme on, parce que nous ici, on a le droit de protéger notre propriété, donc
Ouais,
notre
la loi du
maison,
château et est-ce que vous avez le Stand Your Ground aussi?
Oui.
Okay. Ah, la grosse du sale.
Donc, non, c'est ça. Donc, quelqu'un qui viendrait sur mon, sur, ben, en principe, là, quelqu'un qui viendrait chez moi, sur mon terrain, puis que je l'ai pas invité, et que je crains pour ma vie, ou parce que je crains qu'il me vole des choses qui m'appartiennent, ben je pourrais en fait le tuer. Mais bon,
Utiliser
je...
ton arme tout simplement. C'est ça, tu as le droit de tuer, tu es dans tes droits.
Exactement. Donc c'est sûr que c'est différent au Québec, mais bon. Donc il y a quand même pour les survivalistes, il y a quand même ce besoin de vouloir se défendre s'il arrive quelque chose. Donc, ça devient très important parce qu'on reconnaît que la police est pas toujours là. Puis, je trouve ça bien, par exemple, dans le fond. J'aime ça, cette mentalité-là, de dire, écoute, ben, moi, je veux défendre ma famille parce que moi, on me le reproche, en fait. On me reproche d'avoir des armes à feu parce qu'on me reproche de vouloir défendre ma famille s'il y a quelque chose qui arrive. On me dit que il y a des en place il y a des ressources en place qui s'appellent la police que je peux téléphoner puis qui vont arriver qui, bon chez moi je pense que c'est quoi 7-8 minutes.
Et je vais vous poser une question, je connais votre réponse, puis j'espère, vous, en fait, que je la pose, c'est aux auditeurs qui ont des doutes. Est-ce que vous avez des extincteurs dans vos maisons?
Oui.
Bon, il n'y a personne, il n'y a pas de loi qui vous empêche d'avoir d'extincteurs dans la maison.
C'est vrai.
Il n'y a pas de loi qui vous oblige à appeler les pompiers dès qu'il y a un feu et qui vous interdise d'utiliser vos extincteurs. On est d'accord
Ouais.
là-dessus? Mais c'est la même chose pour les armes à feu. Pourquoi on a le droit d'éteindre les feux nous-mêmes et qu'on n'a pas le droit de défendre notre vie nous-mêmes avec le meilleur outil qui soit pour le faire?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que ce que je me fais dire, c'est que oui, mais l'outil, donc l'instincteur, lui, ne tue pas, ne peut pas, en fait, faire de mal à personne.
C'est
Avez-vous
relatif,
déjà reçu un coup d'extincteur sur la tête, vous?
ça. Exact. C'est relatif.
Écoutez, en droit canadien, si je prends une fleur, même pas une rose avec des épines, mais juste une fleur, puis que j'en donne un coup à quelqu'un, ça devient voie de fait armée. Parce que je me suis servi d'un objet, ça devient une arme. On s'entend que le juge à l'autre bout va faire preuve de discernement, il va me donner le minimum, s'il est tenu de me donner quelque chose. Mais t'sais, on s'entend là, il y a plusieurs manières de définir les choses, et dans tous les cas, les accidents de la route font beaucoup plus de morts que les armes à feu.
Et ça c'est une, ouais, c'est une approche très pragmatique, qu'est-ce que tu avances. Mais c'est parce que ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit dans les médias et tout ça, c'est le côté émotionnel. Justement, combien d'accidents mortels se passent par année versus combien d'accidents ou de crimes avec des armes à feu. Mais ce qu'on retient le plus, c'est le crime à arme à feu versus l'accident en voiture. Et la voiture peut être encore plus dangereuse parce que, me dire, si, c'est un... C'est un outil assez dangereux, là. Si tu perds le contrôle, ça peut faire beaucoup de dommages.
Ben moi, j'ai fait des recherches sur les armes à feu parce que j'ai une approche affective par rapport à ça. Puis j'ai une approche rationnelle, puis elle n'était pas assez, comment je dirais, étoffée par des faits. J'ai beau dire aux gens, une arme à feu, ça ne tire pas tout seul, ça donne rien. Par contre, en faisant mes recherches, j'ai découvert des trucs intéressants. Au Canada, c'est pas la même chose aux États-Unis, mais au Canada, le tiers des meurtres est commis avec une arme à feu. Le reste, c'est des marteaux, des couteaux, toutes sortes de trucs. Dans les meurtres commis avec des armes à feu, le nombre d'armes à feu légalement en possession de son propriétaire est minime. Dans
Oui.
les faits, à chaque année, il y a une arme légale sur 64 000 qui sert à commettre un crime.
Wow.
Une arme légale sur 64 000.
Oh, mon
À
Dieu.
l'intérieur de toute ma vie, disons que je meurs à 100 ans, touchons du bois, ben, dans toute ma vie, il va y avoir 100 armes sur 64 000 qui vont avoir commis un meurtre. Qui vont avoir servi à commettre un crime. C'est très peu.
Oui.
Non, c'est ça. C'est, si on compare avec autre chose, c'est vraiment absolument rien du tout. Sauf que, bon, on a toujours cette... Je pense que c'est le symbole. C'est le symbole qui dérange l'arme à feu. Puis, c'est la même chose pour moi. Je veux dire, quand j'ai vraiment pas grandi avec cette mentalité-là, c'est arrivé, bon, parce que je suis venue ici, je me suis éduquée, j'allais faire mon cours pour avoir mon permis de port d'armes. Mais c'est vraiment été tout un processus. Sauf que je comprends d'où les gens... Quand les gens arrivent avec leurs craintes puis tout ça, je suis capable de comprendre parce que j'ai déjà pensé pareil. Puis je pense que c'est la même chose pour toi, Belle, aussi. C'était comme ça avant. Hein?
Oui. Hey, moi, je veux juste revenir là au sujet initial là, parce que moi, j'ai plein de questions encore puis le temps s'accélère. Moi, il y a une chose aussi, c'est... OK. Il y a la question de l'énergie, la question de la protection. On parlait des armes, on parlait aussi qu'est-ce qu'il en est de la communauté. Moi, je suis curieuse de savoir quelle est ta relation avec les gens qui t'entourent. De un, est-ce que tu habites en banlieue de Montréal ou tu habites à l'extérieur de Montréal en ce moment?
Moi, présentement, j'habite en banlieue avec ma famille. Notre plan à moyen terme, c'est de quitter la banlieue, la ville, et s'en aller loin. Loin, 2-3 heures de Montréal.
OK. Et c'est ça que je disais, c'est ta relation avec la communauté, les gens qui vont être autour de toi. Parce que tout à l'heure, tu parlais que tu voudrais faire des échanges avec les gens qui sont un peu dans ton coin. Comment tu vas initier ça? C'est comment cette approche-là va se faire? Je suis curieuse de savoir.
J'ai plusieurs approches. Tout dépendant de ce qu'on va retenir comme moyen de déployer notre plan, finalement. On pourrait partir très bien notre famille tout seul et développer des liens avec la communauté sur place, tenter un peu de leur inculquer une volonté d'autonomie et qu'eux-mêmes se développent. Et puis, tu sais, ben, on achète nos œufs du voisin si on n'a pas de poule, puis lui nous achète, disons, du sirop d'érable, bon, des trucs comme ça. Parce que dans l'histoire des rapports humains, c'est très, très rare que des partenaires commerciaux commencent à se tirer des balles et à se faire la guerre l'un l'autre. Si j'ai besoin de mon voisin pour mes œufs, puis j'ai besoin de mon autre voisin pour ma viande, et qu'eux ont besoin de moi pour leur blé, il y a des bonnes chances qu'on va trouver un moyen de s'entendre, puis peut-être de passer par-dessus les irritants qu'ils peuvent présenter. S'ils font un gros party une fois par mois, puis que la musique, même si sa maison est à 400 mètres, puis que sa musique arrive chez nous, je vais me fermer la gueule parce que c'est mon partenaire d'affaires. Je suis en échange commercial avec lui. Tandis que si on vit comme en banlieue, où le voisin, on est gentil avec lui par politesse parce qu'on n'a pas d'intérêt en tant que tel, ben à ce moment-là, les chicanes de voisins démarrent pas mal plus vite.
Non, c'est tout à fait vrai. Ben oui, mais c'est vrai. Dans le fond, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, dans le fond, ça fait, c'est, parce que tu peux, à un certain moment donné, tu peux pas tout avoir. T'as pas le choix pas d'être dépendant du voisin, parce que dans le fond, c'est plus, moi, je pense que c'est plus, d'avoir de la diversité, parce que si t'as toujours manger tout le temps les mêmes choses, c'est pas le fun, mais tu sais, si à un moment donné, tu peux aller changer, toi, si t'as du sirop d'érable, tu peux aller changer ça. Lui, il y a des abeilles, tu fais, c'est du sucre, mais tu fais un petit
compromis.
Un petit changement,
mais ouais, c'est ça. Un peu comme une interrelation. On est des humains. Les humains ont besoin d'interagir avec les autres. Moi, certaines personnes vont dire, ben, moi, je vais aller dans ma forêt, je vais aller m'enfermer, je vais aller vivre, là, pendant les 15 prochaines. Ça, c'est un peu utopique parce que rendu à un certain point,
c'est parfait, des gens de même, parce qu'on y va 2 ans après, on va trouver des cadavres, on prend leurs ressources et on s'en va.
Oui, mais en tant qu'individu, en tant qu'espèce, on aime ça, on a un besoin d'être entouré de gens autour de nous, même si tu vas à la campagne. Puis moi, je ne vis pas à la campagne, mais j'ai des proches qui vivent à la campagne, et c'est comme c'est inné, c'est naturel que ton voisin à côté va commencer justement à te, tu sais, il va te rendre service, il y a des choses, des échanges qui se font et c'est d'une façon tout à fait naturelle, même si, comme tu dis, peut-être qu'il y a des choses qui vont te taper sur les nerfs, il y a peut-être des habitudes que tu n'aimeras pas, mais la distance entre les maisons est assez loin pour que tu puisses quand même avoir une forme de... C'est une forme de limite autour de toi, là, t'es capable d'avoir ton petit temple.
Et puis, n'allons pas aussi loin. Prenons la vie de famille. Mm-hmm. On doit tous faire des sacrifices en vie de famille. Et puis,
Ah, mais c'est sûr. Parlant de vie de famille, moi, je suis curieuse de savoir, oui, excuse-moi, mais c'est ça, la relation est pas parfaite pour personne. Il n'y a pas une relation parfaite entre couple, entre enfants, entre famille. Mais moi, je suis curieuse de savoir avec tes enfants. Tu parles que tu as eu des... tu sont peut-être un peu plus âgés que mes enfants, les miens, le plus vieux à 11 ans. Comment tu as été capable, ou as-tu été capable d'inculquer ces valeurs-là à tes enfants?
Bon, d'abord, mes enfants sont plus jeunes.
Ah, excuse-moi, tu parlais de 90, quoi. OK, ils sont plus jeunes. OK, ben, c'est moi qui les
ai. Ils les ont eu plus tard, là.
C'est ça, dans 90, c'est les prises de conscience, c'est la préparation. Mes enfants, j'ai deux enfants, une fille de 4 ans et demi et un petit garçon d'un an et deux mois.
Mon Dieu, OK, bon, ben. Moi, j'en ai un, j'attends mon quatrième, là, il devrait arriver d'ici 6 semaines, là. Alors, mon plus vieux, 11 ans, puis le nouveau, il est même pas encore arrivé, là. Mais c'est ça, ces valeurs-là, comment on les transmet à ses enfants? Est-ce que nos enfants, de 1, tu penses qu'ils vont être ouverts à ça?
Les enfants sont en bonne partie ce que les parents en font. Évidemment, bon, tu as des enfants, j'ai des enfants. On sait que nos enfants ont des traits de caractère.
Oui.
Ma fille, par exemple, elle est maternelle, c'est pas possible. Puis en même temps, elle est un peu tomboy, c'est drôle. Elle sera pas délicate, mais tellement maternelle avec son petit frère, puis avec les autres enfants autour. De tout temps, elle a toujours partagé ce qu'elle avait. Des fois, elle veut pas, là, mais c'est normal. Ça, ce sont ses traits de caractère. Ses valeurs, ensuite, ça, c'est le rôle des parents. Je ne veux pas rentrer des valeurs de force dans la tête de mes enfants. Ça va peut-être sonner rétrograde, mais je ne sais pas si vous avez suivi la série Breaking Bad.
Ça vous dit...
Bon, enfin, là-dedans, c'est une excellente série au demeurant. Là-dedans, il y a une réplique qui m'a vraiment marqué. Il y a le grand méchant mafieux avec Walter qui se trouve être le génie chimiste qui fabrique la drogue et qui dit je veux plus fabriquer, ça détruit ma famille, ma double vie. Puis le mafieux lui répond, quel est le rôle d'un homme, Walter? Puis lui laisse pas le temps de répondre, il dit, le rôle d'un homme, c'est de pourvoir à ta femme, à tes enfants. C'est ça ton rôle. Puis, c'est très traditionnaliste, puis je vais me faire pitcher des roches par les féministes.
Ben oui, ben, moi, je suis d'accord avec ça.
Non, mais moi aussi, je suis vraiment pour le modèle traditionnel de la famille, puis, je suis vraiment pas féministe, là, puis, moi, j'aime ça, ce discours-là, mais j'avoue qu'il y a, j'en connais, dont des personnes très près de moi.
Sauterait 6 pieds. non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette vision-là aussi. Vois-tu, c'est un peu les valeurs modernes qu'on essaie d'implanter. C'est que la femme et l'homme sont égaux. Ils ont chacun les mêmes rôles. Et moi, ben, je suis un peu comme toi. Je suis un peu conservatrice sur ce point de vue-là. Je pense que chacun se complète très bien dans une famille, dans un cercle familial, puis chacun a ses forces.
Oui. L'égalité, mais l'égalité en droit.
Oui, tout à fait. C'est ça, exact.
Ma femme a autant de droits que moi. Et puis, avec ce que je viens de dire, j'ai eu l'air terriblement macho. Mais je vous apprends que la bouffe à la maison, 85% du temps, c'est moi qui l'ai fait.
Ah?
Ben oui, absolument. Ça fait partie des talents
que vous avez.
Non, je me plaindrai pas, moi non plus. Je me plaindrai pas. Mon mari aussi est bon là-dedans.
Mais j'aime cuisiner, ma femme travaille. Il n'y a pas de raison pour que ce soit elle qui tape toutes les responsabilités familiales. Parce qu'on parle de tâches ménagères, on associe ça aux femmes, mais en fait, ce sont des responsabilités familiales. Si la femme est à la maison, par exemple, et qu'elle ne travaille pas à l'extérieur de la maison, et j'ai bien dit à l'extérieur, parce qu'elle travaille à l'intérieur, ben à ce moment-là, elle a du temps pour faire ce qu'on appelle les tâches ménagères. Mais si les deux travaillent, je m'excuse, mais en toute honnêteté, il n'y a pas de raison pour que le lion se prélasse au soleil pendant que la lionne la chasse, puis qu'elle nettoie ses petits, là, puis qu'elle les nourrisse, puis bon, on est civilisé quand même.
Ben oui, inquiète. Non, mais c'est vrai que ta réplique, par contre, de tout à l'heure, moi, pour moi, elle me fonce pas. C'est la seule chose que je peux dire, parce que pour moi, c'est vrai qu'il y a un rôle chacun, puis c'est justement les rôles des hommes, le rôle des femmes, c'est comme un complément. Moi, je vois toujours ça comme une forme de complément.
C'est ça, je dis que je suis pas pour l'égalité. Je ne crois pas qu'on est égal, mais on est aussi important. Donc, c'est vraiment, tu sais, il y a des choses que moi, je fais très bien, puis c'est inné chez moi de le faire, puis pour mon mari, c'est compliqué, ça vient pas naturellement, mais c'est vraiment des rôles qu'on nous a donnés, puis, ben moi, regarde, je suis 100% d'accord avec ça. Mais, en fait, je voulais qu'on vous parle aujourd'hui, mais ça l'a donné une introduction, parce qu'il y a, tu sais, on pourrait aller en profondeur dans chacun des aspects dont on a parlé. Puis, tu sais, bon, mais c'est vraiment une introduction. C'est pour des gens qui pensent. Puis, en fait, pour montrer que finalement, là, tu sais, c'est pas des gens bien normaux, là.
Ben, moi, je veux préciser, je sonne peut-être terriblement à redneck. J'ai quand même 8 ans à l'université. J'ai fait un bac en histoire, j'ai fait un bac en droit.
Wow.
C'est 4 mois de barreau. Avant d'arrêter tout ça pour toutes sortes de raisons, dont le respect de la probité.
Et vois-tu, moi, là, ouais, les rednecks, ça me fait rire parce que moi, j'ai commencé, c'est ça, moi, je suis dans un pays de rednecks, Julie aussi, là, mais moi, là, je suis en Arkansas, laisse-moi dire, des rednecks, il y en a partout. Et j'ai commencé à avoir un respect pour ces gens-là parce que, justement, ils ont une façon de vivre sans dépendre du système. Ils peuvent dépendre indirectement. Il faut qu'ils suivent les lois. Il y a une formalité qui est là, là. Ils sont pas des sauvages.
C'est pas des anarchistes.
C'est ça. Mais ils ont quand même été capables, ou ils sont toujours capables d'être très indépendants et très, très forts entre eux. Et moi, j'aime beaucoup cette mentalité-là. J'ai appris à l'aimer, j'ai appris à apprécier ça. Je sais que c'est très péjoratif, on parle des rednecks comme étant des attardés mentaux, mais moi, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, ils sont d'une intelligence. Les gens, là, ils sont brillants. C'est des gens qui sont pas compliqués, mais qui ont de la jugeote, qui sont capables de réfléchir.
C'est des gens généralement sans nuance.
Oui.
Mais dans leur milieu de vie, la nuance peut être nuisible. Je veux dire, on peut se questionner à savoir est-ce que une vache a une âme, est-ce qu'elle souffre, est-ce qu'elle a une conscience. Mais si on se questionne à là, on ne l'admettra jamais à la crise de vache, puis on mangera pas. Ça nous prend de la viande. Je sais pas, là, mais c'est un mode de pensée qui est adapté à leur milieu. Prenons le même redneck, amenons-le en ville, il n'y a pas d'affaire là. Puis prenons le bobo du plateau à Montréal, puis envoyons-le à la campagne, il n'y a pas rapport.
Il va se perdre, il va s'ennuyer de son petit latté, son café latté. Mais hey, écoute, Vic, je regarde le temps presse, là, puis il va falloir vraiment revenir là sur certains points. Il y a des choses que j'ai retenues qui sont très intéressantes. Puis je pense que les gens, le gros problème, c'est que de un, il y a beaucoup d'inconnus dans cet environnement-là. Nous, quand on parle de ce secteur-là, le survivalisme, les gens, eux, ils t'associent automatiquement à un sectaire ou une personne isolée, tout ça. Là, on a essayé de démystifier le tout.
Ben ouais, puis c'est ça. Puis si vous voulez en savoir plus, Vic a un blog, puis tout ça, il y a une page Facebook, et c'est très intéressant, mais plein de posts sur ce qui se passe dans ce domaine-là, puis en fait, c'est toujours très intéressant. Donc, sur la page, sur notre page et nous, de Deux filles en liberté, on va mettre les liens de son blog, de sa page Facebook, pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Et bien, on doit se quitter, et on rejase de tout ça après la pause. Is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up and ox speak. Grunt no strength. The ladder starts to clatter with fear. Fight down high. Fire in a fire. Represented seven games in the government for hire in a combat site. Left to us is coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters battle Trump. Tethered crop. Look at that. No plane. Find them. Uh-oh. Overflow. Population common. Serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive incinerate, light a candle, light a motive, step down, step down. Watching heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.
Divide mountains, sit in a line. Leonard Bernstein, Leonette, Brezhnev, Lenny, Bruce and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button, nap. Bon, de retour à notre show Deux filles en liberté. Et ma chère Texane, qu'est-ce que tu as pensé de cette entrevue avec Vic?
Ben, en fait, tu sais, moi, je connais Vic, parce que je l'ai connu sur Facebook, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fait longtemps que je le suis. C'est sûr que moi, ça me fascine. Je suis fascinée par ça depuis que je suis toute petite, puis j'ai toujours voulu faire ça. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puis t'as beaucoup, beaucoup d'apprentissage, parce que c'est beaucoup de choses à apprendre, là. Tu sais, on parlait des panneaux solaires, puis tout ça. Tu sais, faut tout que tu saches sur l'énergie, comment transformer, puis même juste faire pousser des trucs dans ta cour. Ça a l'air bien facile, là.
Mais pas du tout. Moi, j'ai essayé. On s'est amusé dans notre petite cour. On a fait pousser des concombres et des légumes là, qui sont assez faciles. Là. Puis, on a eu des bonnes récoltes. Mais, tu sais, des fois, c'est justement tout le processus. On faisait ça avec les enfants. Donc c'était le fun. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu te consacres, que tu te mettes. Tu sais, si tu te mettes dans le bain puis que tu le fasses. Puis, c'est pas tout le temps évident quand on a pris pour acquis qu'on peut avoir ça instantanément dans au centre d'achat ou aller, tu sais, on va n'importe où maintenant, on peut tout avoir.
Mais c'est parce que c'est pas, tu sais, quand tu le fais par toi-même, écoute, c'est tellement différent. Moi, là, d'avoir, moi, j'avais fait pousser des cantaloupes, puis j'en ai eu vraiment beaucoup. Mais juste d'envoyer les enfants, va me chercher un petit cantaloupe dans le jardin, puis qu'ils reviennent, puis ils sont tous contents de le manger. On dirait qu'ils sont 100 fois plus contents de le manger parce qu'ils viennent du jardin que si on l'avait acheté à l'épicerie, tu sais. Il y a quelque chose de spécial.
C'est symbolique.
Même chose pour des, c'est ça, même chose, j'ai des citrons, j'ai un citronnier. Quand on va chercher des petits citrons comme ça pour faire, mettons, de la limonade, ben écoute, tu sais, c'est le fun. Les enfants ils aiment ça, puis ben moi aussi. Puis dans le fond, le but premier, quand on a acheté le terrain, c'était d'être le plus indépendant possible. Et on s'est dit, on est allé par étapes. Donc, Vic nous disait que lui, il avait pas d'animaux. Lui, tout est c'est de la bouffe sèche, j'imagine, ou tu sais, maintenant tu peux acheter des kits là. Bon, lui, il est s'il arrive quelque chose, il va être capable de se nourrir pendant 2 ans sans problème. Nous, on voulait le faire, oui, mais on voulait vraiment que ce qu'on a, on puisse, dans le fond, ça se régénère toujours. Donc, mettons, là, ce qu'on a fait, c'est la première étape, c'était d'acheter des poules.
Oui.
Donc, on s'est acheté des poules, mais tu sais, on n'a aucune idée comment ça marche des poules, mais bon, on a appris. On en a perdu aussi.
C'est des maladies, des choses, ouais, des virus.
Ben, on sait pas trop ce qui s'est passé, là. Bon, c'est sûr que, tu sais, on a vraiment été... Je me suis pas très informée d'avance. Je suis allée plus avec ce que je pensais. Donc, on a des poules qui vont donner des œufs. Et donc, on aurait en masse 2 pour même pouvoir en vendre à quelqu'un qui voudrait en avoir. Et nos poules se nourrissent que... Bon, au début, on leur a donné une couple de petites affaires, là, mais ne se nourrissent que de gazon et d'insectes. Donc, on n'a pas besoin d'acheter de bouffe pour les satisfaire. C'est bien. Donc, ce sont vraiment comme les œufs qui sortent de mes poules. Ben, en fait, ils vont finir par rien me coûter du tout parce que j'ai pas besoin de les nourrir. Mais il faut que tu aies un grand terrain pour faire ça, puis mon terrain, il est...
Puis regarde, moi, l'autre chose, c'est que quand on parle de ça, souvent on se fait étiqueter d'être des bon, il y a le terme conspirationnisme, mais aussi être extrémiste, être paranoïe, penser négativement. Moi, je vais te dire, cette approche-là m'est venue suite à l'incident que j'ai vécu, non, pas l'incident, mais à ce qui est arrivé avec Katrina. Et de constater physiquement, émotionnellement et tout, sur tous les aspects, là, comment en l'espace d'une journée, tout peut renverser, ta vie peut être chambardée de A à Z, et comment on est très vulnérable dans des grandes villes ou moyennes villes. Et ça, je disais dans le deuxième segment avec notre invité, je parlais là, bon, ben les gens, eux autres, là, tu leur dis quasiment de revenir il y a 200 ans dans le principe de la petite maison dans les prairies. Wow. Puis jouer, mais eux autres, ils ont acquis, là, tu sais, ils regardent la technologie, t'as le téléphone, iPhone, t'as le wireless, t'as ci, t'as ça, tu vas...
Ouais, mais on les a pareil, ouais, mais on les... Tu sais, on utilise... Dans le temps, c'était beaucoup plus difficile de faire ce qu'on fait là. Tu sais, je te parle de panneaux solaires, là, ils faisaient pas ça dans le temps. Bon, il y avait peut-être pas d'électricité, puis ils chauffaient au bois, puis tout ça. Sauf que, tu sais, on utilise la technologie, donc oui, on utilise tout ce qui nous est offert comme technologie pour rendre ça plus simple. Le problème, c'est que, tu sais... Si éventuellement, là, j'ai pas besoin d'aller m'acheter parce que le but, c'est d'avoir, mettons, de la viande pour manger, des légumes, puis tout ça, puis bon, de l'énergie, blablabla, ben, c'est de l'argent sauvé.
Oui.
Puis en fait, la façon dont tu vas aller sur plein de sites comme ça, OK, il y en a des vidéos, il y a plein de sites que tu peux aller voir pour t'organiser, pour faire ça, tu peux carrément être, je te dirais, 90% indépendant du système, donc de produire tout ce que tu as besoin.
Tout en bénéficiant des technologies qu'on a maintenant. Puis c'est ça mon point. Moi, j'ai pas voulu comme ridiculiser son commentaire en disant, bon, ça y est, tu veux qu'on oublie tous les avantages qu'on a. Mais parce que moi, je sais, tu sauves de l'argent. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que on est très vulnérable sans le savoir. Les gens qui sont dans des grandes villes, moyennes villes, qui sont dépendants, comme qu'est-ce qu'ils disaient? Il y a une étude qui a été faite, ils disaient dans les grandes villes, en moyenne, la population a jusqu'à 2 jours de denrées chez elle. Après 2 jours, s'il arrive une situation naturelle, moi, je me rappelle à la crise du verglas, je pense que c'est arrivé en 84.
Oui, c'est ça, exact, là, on parle pas de zombies, là. On parle de situations qui arrivent régulièrement. Nous, ici, on a connu Ike, même chose, tu sais, quand t'es pas capable d'aller mettre de l'essence dans ta voiture parce qu'il y en a plus.
Ben, faut que tu trouves des alternatives. Et c'est là que, moi, j'ai embarqué dans cette mouvance-là. C'était pas l'autre extrême où est-ce que tu vas dire, ah, c'est, on anticipe l'effondrement de l'économie, on anticipe une épidémie ou quoi que ce soit. Ça peut venir. Mais moi, je me base plus sur des effets naturels qui peuvent arriver n'importe quand, à n'importe quelle dans n'importe quelle circonstance, et qui font que du jour au lendemain ou en l'espace de quelques temps, tu es autonome parce que tu as tout autour de toi à devenir hyper dépendant. Un peu comme de New Jersey, qu'est-ce qui s'est passé là avec Sandy. Ouais. Sandy a frappé un endroit où est-ce que c'était relativement riche. Les gens étaient très indépendants. Ils pouvaient manger, ils pouvaient avoir de tout. Ils étaient proches de la mer. Du jour au lendemain, ça fait une grosse catastrophe. Et là, on s'est mis à voir des gens qui arrivaient puis disaient, on n'a plus d'eau, on n'a plus à manger. Le gouvernement.
Non, parce que t'arrives à l'épicerie. Puis tu sais, on l'a vécu. T'arrives à l'épicerie. Tu veux t'acheter de l'eau.
Plus. Non. Mm-hmm. C'est ça, les choses essentielles que tu prends pour acquis, c'est plus là. Puis d'après de voir ces gens-là, puis c'est pas les critiquer, c'est l'instinct naturel, c'est comme c'est naturel pour eux d'aller demander de l'aide et dire quand est-ce que le gouvernement vient nous aider, on est sur le bord de mourir, on est sur le bord de plus arriver. Et c'est cette dépendance qui, moi, m'a fait très peur. Moi, c'est pour ça, quand j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé avec Katrina, quand on embarquait les gens dans le centre-ville, là, quand la ville était 6 pieds sous l'eau, là, puis on embarquait des gens dans les autobus, puis on les envoyait 4 coins des États-Unis, dont à Houston, ben il y en a qui sont toujours pas revenus, là. Ça fait 7 ans que Katrina est arrivée, puis ces gens-là sont encore à un autre endroit, puis on a décidé que c'est là qu'elle est, puis ils ont décidé de s'installer là parce qu'il n'y avait rien de mieux. Mais tu perds ta liberté. Ta protection, tout ce que tu avais acquis, tu l'as tout perdu. Et moi, ça m'a réveillée. Mon mari et moi, on a été shakés par ça, puis on s'est dit, même si on n'a pas été directement affecté, il faut prendre les moyens, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis n'importe où est-ce qu'on est, là, regarde, nous, dans le sud, il y a les ouragans, il y a les tornades.
Oui, c'est ça, tu parlais du Québec, puis la crise du verglas qu'on a vécu. Je me rappelle, on avait vécu une crise du verglas, en fait, c'est comme un an avant la vraie crise du verglas, mais c'était aussi pire, c'est juste que c'était pas dans la région de Montréal, parce que je viens pas de là, mais la raison pour laquelle on était capable de s'en sortir, c'est que nous, on habitait dans le bois, on avait une grosse réserve de nourriture, mes parents ont toujours été bien forts là-dessus, et, tu sais, puis mon père, il est extrêmement débrouillard, donc on était capable de, tu sais, d'avoir tout ce dont on avait besoin. Mais il y a plein de gens comme ça qui sont obligés d'aller dans des endroits communautaires pour avoir de la nourriture, avoir des couches, avoir, tu sais, des choses essentielles. Puis c'est dans ces moments-là que tu t'aperçois que tout peut s'écrouler demain matin. Puis ça n'a même pas rapport avec l'économie, rien de ça, là. Tout peut s'écrouler demain matin. Puis que ce que tu croyais acquis, ben en fait, c'est disparu, puis c'est essentiel, t'en as besoin, on a besoin d'eau, elle passe pas, tu sais, on y pense jamais, hein, tu sais, on boit, tu as soif, tu bois de l'eau, c'est tellement facile, mais on y pense pas à quel point, sans eau, là, écoute, tu meurs en vraiment peu de temps, là, donc c'est assez important, puis il y a combien de personnes qui ont des réserves d'eau chez
eux? Très peu, non, c'est ça, c'est que, justement, le message est l'eau est gratuite ou l'eau est très peu disponible. Nous, on la paye ici. Je sais pas s'il y a encore des compteurs d'eau au Québec, mais nous, on la paye. Mais franchement, c'est assez modique, là. Je me plaindrai jamais. Mais dans le sens, c'est tellement comme une denrée essentielle. Nous, on prend notre douche. Tu te fais tout avec de l'eau, puis tu prends ça comme quelque chose qui ça a toujours été là, ça va toujours être là. Jour au lendemain. On te donne une ration et on te dit c'est ça que tu as par jour et tu ne peux pas dépasser ça. Laisse-moi dire, ta vie va changer drastiquement. Oh, oui. Puis c'est pour ça, moi je veux revenir dans le sens, c'est une personne qui habite en ville, comme une grande partie de la population québécoise, dans les centres urbains comme Québec, Trois-Rivières, Montréal, tout ça, Gatineau, c'est quand même, je le considère, des centres urbains, et qui sont généralement dépendants du système. Puis par système, je vais au-delà du gouvernement, mais je veux dire comme la machine, là, qu'est-ce qui fait qu'on a une vie moderne?
L'économie, c'est ça.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans aller vers l'extrême, sans dire on va tout vendre, on s'en va, parce que l'autre extrême, c'est, vois-tu...
Ouais, mais t'as-tu vu la vidéo, parce que ça, tu me fais penser à ça, t'as-tu vu la vidéo, c'est en Californie, c'est un monsieur avec sa famille qui a décidé d'être complètement indépendant.
Ouais. Oui.
Mais il habite en ville. Il a, je crois, c'est un dixième d'acre. Donc, on s'entend, c'est pas beaucoup, là. C'est tout petit. Il a tout un petit terrain et il est capable. Il fait 20 000 $ par année en vendant ses produits. Mais il utilise, il est à 90 % indépendant du système.
Ça peut se faire en ville. C'est plus difficile, mais ça peut se faire. Mais moi, je pense surtout à ceux qui ont absolument, là, qui commencent à s'éveiller à cette idée-là. Étant donné que c'est une transformation là, de l'habitude de vie, c'est quoi les premières étapes? Moi, ce que je dis essentiellement, c'est peut-être de faire des réserves. C'est d'être capable de faire des réserves, justement, aussi banales que, tu sais, comme je disais, l'eau, mais même des papiers de toilette. Ou des, tu sais, c'est comme, on est des hyper consommateurs, mais souvent, on va consommer sur des choses qui sont pas essentielles pour la survie. Mais d'un autre côté, il y a des choses qu'on ne veut pas accumuler, parce qu'on va dire, ben, c'est pas grave, j'ai le dépanneur, ou j'ai ci, ou j'ai ça qui est à côté. C'est pour ça que c'est peut-être changer un petit peu sa vision des choses, dire, ben, regarde, qu'est-ce qui arrive si jamais il y a une panne d'électricité, puis pendant 7 jours, il n'y a pas d'électricité? Parce que ça peut arriver. C'est arrivé, je pense, c'est pas l'hiver passé, où est-ce qu'il y a eu des pannes de courant comme ça. Les gens, ils étaient pris avec une grosse bordée de neige, quoi que ce soit. C'est des petites étapes comme ça, et graduellement, peut-être ajouter d'autres choses. Comme notre invité parlait, puis je parlais de drastique dans le sens, je pense pas que ce serait bon pour tout le monde de vendre leur maison en plein centre-ville de Montréal, d'aller s'installer à 3 heures de Montréal. Si leur job est en centre-ville de Montréal, ça va pas bien. Puis cette étape-là, peut-être qu'elle va être bonne pour certains, mais il y en a d'autres qui vont dire « je suis désolée ». Moi, je suis pas capable de faire ma vie comme ça. Mais ça n'empêche pas ces gens-là d'avoir un côté un peu, autonomie.
Mais tu vois, tu te rappelles, on parlait avec Ulrich il y a quelques semaines, puis il nous disait, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire en France. Bon, en fait, tu peux en faire jusqu'à une certaine limite, là. Tu peux avoir de la bouffe chez vous, là. J'imagine qu'ils vont pas aller taxer là-dessus, en tout cas. Il n'y a rien qui me surprendrait, quoique. Mais c'est vrai parce que là-bas, tout est réglementé, c'est hyper réglementé. Donc, pour être capable de le faire, il faut vraiment avoir une certaine latitude sur ce que tu peux. Tu sais, comme en France, puis en Europe, dans d'autres pays, tu peux pas. Les graines de semences sont réglementées. Bon, ce qui c'est pas le cas ici. Mais ça, c'est un autre... Tu sais, les gens croient que... puis je le croyais moi aussi, là, que si tu achètes, disons, une tomate à l'épicerie, puis que tu fais... tu prends les graines de cette tomate-là, puis tu essaies de les replanter, ça va donner des tomates, des plants de tomates. C'est pas
vrai. C'était vrai, mais c'est plus vrai.
C'est ça, exactement. C'était vrai, mais ce n'est plus vrai, parce que la majorité des légumes, fruits et légumes qu'on achète à l'épicerie, c'est des hybrides. Donc, les graines ne sont pas fertiles. Donc, si on veut être capable de le faire, on doit pouvoir acheter ce qu'on appelle les heirlooms, des graines ancestrales, comme on dit, l'ancêtre de la tomate qu'on achète à l'épicerie, et les faire pousser. Puis ceux-là, quand le fruit est bon à manger, mais tu peux prendre les graines, et là, eux, tu peux les replanter la saison suivante, et ensuite tu reprends les graines que tu replantes, et donc tu as un roulement, ça te coûte jamais rien de graines. Mais il y a des endroits dans le monde, en Europe, où tu ne peux pas avoir ça. C'est tout est géré, tout est réglementé par le gouvernement. Puis ça, moi, ça me fait vraiment peur parce que si t'as plus, tu sais, je veux dire, l'agriculture, c'est ce qui mène le monde, là. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Puis de réglementer ça et de mettre de tout centralisé et de que ce soit contrôlé par juste une entité, moi, ça me fait vraiment peur.
Oui, tout à fait. On a encore le privilège, autant au Canada qu'aux États-Unis, d'avoir cette autonomie-là, de pouvoir, si on veut, avoir notre petit potager avec nos graines et tout ça. Je sais pas jusqu'à quel point... il va y avoir une intervention. Je sais que des fois, on entend des nouvelles à gauche qui sont assez effroyables. Même chose avec l'eau. Jusqu'à maintenant, dans la plupart des États américains, comme au Canada, on peut récupérer à partir de puits d'eau, récupérer l'eau et de d'avoir des petits bassins, quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des États, comme l'Oregon, si je me trompe pas, on en avait parlé l'autre fois, où est-ce que où t'as plus le droit d'avoir ces grosses espèces de cruches où est-ce que tu récupères l'eau. Il y a eu dernièrement des commentaires qui ont été envoyés par des grands de ce monde, dans la corporation Nestlé, entre autres, le grand patron qui disait l'eau n'est pas gratuite ou c'est pas un droit, c'est une propriété. Tout ce discours-là, quand t'entends ça, moi, ça me fait peur parce que justement, c'est comme si on voulait s'accaparer des biens essentiels et de limiter le pouvoir à l'individu d'être indépendant. Puis c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, on est dans une zone encore où est-ce qu'on a la latitude de le faire. J'espère qu'on ne perdra jamais ce droit-là. Et...
Ben c'est parce que c'est en voyant, tu sais, on voit comme tout le temps les étapes, tu sais, tu dis, bon, on s'en va vers là, puis c'est pour ça que moi, ça me fait peur, parce que tu sais, tu vois comment ça fonctionne maintenant, puis tu dis, bon, mais ça, c'est, est-ce que c'est ça notre futur, ou est-ce qu'on va finir par se réveiller avant, puis que là, on a la chance, ou la malchance, je sais plus trop, de voir ce qui nous attend. On le voit dans d'autres pays, on le sait. Est-ce qu'on va vraiment comprendre, essayer de puis je sais pas d'essayer de changer les choses. Tu sais, tu me parles de l'eau n'est pas d'une propriété, l'eau elle est la propriété de qui? Est-ce que l'eau qui tombe sur mon terrain, pourquoi elle ne serait pas ma propriété? Je veux dire, elle est la propriété de qui? Sauf que si tu mets, mettons sur un terrain comme un terrain si t'es en campagne, si tu mets un puits, si tu vas chercher ton eau, t'as le droit, ça t'appartient, c'est ton eau à toi, tu vas la chercher dans les souterrains. Sauf que comme ici, nous, on est en campagne / ville et on n'a pas le droit parce que la municipalité, dans le fond, nous offre le service d'eau. On n'a pas le droit d'avoir de puits d'eau. Donc, tu vois, c'est comme on est déjà brimé là-dessus parce qu'on n'aurait pas le droit.
C'est comme si tu volais une partie du bien collectif. Et c'est là. Et vois-tu, c'est espèce de pensée, puis là, je vais tourner, puis il y en a du bon, ça y est, le côté conspirationniste embarque, mais je sais pas si t'as déjà entendu, c'est même pas conspirationniste, c'est sur papier, c'est ça existe pour de vrai, c'est l'agenda 21. L'agenda, c'est ça, là, mais c'est vraiment parce qu'il y en a qui vont dire, bon, c'est seulement les extrémistes qui dénoncent ça. Mais en fait, l'agenda 21, c'est un peu cette attitude où est-ce que dans les grands centres urbains, il faut avoir une pensée collective, il faut arrêter d'avoir ce côté possessif où est-ce que...
Ben, c'est de protéger la planète. Dans le fond, l'agenda 21, c'est...
Mais on brime beaucoup le droit individuel. Cette pensée-là est très collective parce que pour eux, c'est... Puis ça se fait surtout dans les grands centres urbains. Je sais qu'au Québec, il y a 2-3 villes qui ont adhéré à ce programme ouvertement. Ils se disent pro-agenda 21. Et leur but ultime, c'est de prévenir les abus sur l'environnement, mais en même temps, c'est que là, ils sont en train de brimer le choix de l'individu de dire, ben moi, je veux faire ça. C'est comme la pensée unique est établie, c'est le même, on vous met dans un moule et vous devez penser de même. Et
Mm. Ouais, ben je veux juste essayer parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire de quoi qu'ils parlent l'agenda 21, blablabla. Je veux juste faire une petite parenthèse. L'agenda 21, ça existe vraiment. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe. Les gens vont dire que c'est de la conspiration parce qu'ils voient en arrière de l'agenda 21 le contrôle. Donc, on aurait créé cet agenda 21-là pour contrôler la planète et peut-être amener le nouvel ordre mondial là, dont on connaît. Et ce serait une façon, une manière d'arriver à ses fins. Mais l'agenda 21, c'est vraiment vrai.
C'est sur papier, à l'ONU, ça a été établi il y a quelques années. Et c'est une pratique qui fait en sorte que, justement, on veut établir des standards dans les municipalités, dans des grandes villes, pour que on répartisse comme tout le monde ait les mêmes avantages, les mêmes droits, mais pour que ça soit fait, il y a certains qui vont devoir donner, il y en a certains qui vont recevoir. Puis, on va limiter le côté individualiste de la chose. Ça va devenir vraiment une pensée collective. Puis, il y en a qui vont dire, ah, c'est tant mieux, comme ça, tout le monde va avoir la même chose. Mais d'un autre côté, ça brime énormément la liberté de chacun d'agir à sa façon. Et ça donne encore beaucoup plus de pouvoir à l'autorité supérieure face à l'individu de prendre des décisions.
Ben, c'est parce que ça a été comme créé en disant, puis tu sais, tu peux pas dire en non, j'aime pas ça, pour protéger la planète. Donc, ça a vraiment été amené de cette façon-là, de dire, écoutez, la planète, c'est collectif. Je veux dire, ça peut pas être individuel, on peut pas tout avoir notre petit... Bon, la planète, c'est collectif, donc on doit collectivement faire en sorte de protéger cette planète-là. Et là, ça amène plein d'études qui, de tout bord, tout côté, sur les changements climatiques. Il y en a qui vont dire que c'est ce réel, il y en a qui vont dire que c'est cyclique. Et on ne s'entend même pas sur cette... qu'est-ce qu'en fait, c'est de protéger la planète? T'sais, on n'a pas encore d'idée fixe, puis je pense pas qu'on en ait non plus, de savoir qu'est-ce qu'on fait qui est mauvais, puis qu'est-ce qu'on fait qui est bien.
Puis on essaie d'établir, par contre, une pensée pour que tout le monde puisse rentrer dans ce moule-là. Puis, vois-tu, moi, ce que je crains, et c'est ce que notre invité nous parlait, je sais pas s'il nous a parlé de ça en ondes ou après, mais il parlait des maillons. Tu sais, il disait, moi, ce que je vois, une personne qui est survivaliste, ce qu'elle prône avant tout, c'est le premier maillon de la société qui se trouve à être dépendante, de compter sur nous pour survivre. Deuxième étape, c'est la communauté. Troisième étape, tu t'en vas peut-être avec les gouvernements provinciaux. Troisième étape, quatrième étape, t'es rendu fédéraux, puis après, ben, tu vas au-delà, qui peut être les Nations Unies, c'est ça. On dirait que cette pensée-là qui nous est imposée, justement, l'agenda 21 provient de l'ONU. C'est comme si on voulait rayer tous ces premiers maillons, dont le premier qui est le plus crucial à mes yeux, ça veut dire être autonome, être capable d'être indépendant. C'est comme si on voulait enlever tous ces premiers maillons et de passer de l'individu doit dépendre d'une entité forte, grosse et contrôlante. Et ça me fait très peur. C'est un peu la pensée, nous, on sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. On peut pas te donner toutes les informations, on peut pas te prouver à 100% qu'on est meilleur que toi, l'individu, mais c'est le même que ça marche et tu dois rentrer dans ce moule-là. Puis moi...
C'est ça, t'as un moule, un guide, c'est exactement ce dont on attend ça de toi en tant qu'individu et tu dois t'y conformer. Tandis que si tu y vas avec tes premiers maillons, ben en fait, si tu peux pas toi te débrouiller tout seul, t'as besoin de ta communauté, donc c'est vraiment tout petit, c'est autour de toi, ben je veux dire, ça va répondre plus à tes besoins. Parce que, tu veux dire, t'es culturellement parlant, puis tout ça, ça va vraiment répondre plus à tes besoins que si tu y vas avec une grosse entité, une grosse organisation qui va vraiment réglementer les droits de tous et chacun sur toute ta planète, là, tu sais, si tu parles de l'eau.
C'est pour ça que moi, ce côté survivalisme m'intéresse, parce que c'est le fait que ça donne beaucoup de potentiel à l'individu de s'épanouir sans rejeter. C'est ça. Notre invité disait, moi, là, je suis pas un individualiste anti-gouvernement puis anti-société. Moi, je sais que je suis un individu dans un environnement qui est entouré d'autres individus. Il faut que je respecte les lois, il faut que je respecte les normes. Sauf que mes besoins, ma façon de vivre, c'est peut-être pas exactement la même chose que celle de, que les valeurs de mon voisin ou de la personne qui est à...
Mais c'est aussi bien.
Oui, c'est ça. C'est une forme de respect mutuel. Et c'est pour ça que je suis très intéressée vers cette mouvance-là. Parce que, je suis pas une fataliste dans le sens où j'aime m'enfermer dans un bunker puis il y a personne qui peut rentrer dans mon bunker parce que il va avoir affaire à moi. Mais d'un autre côté, je ressens depuis maintenant assez longtemps le fait qu'on est en train de perdre de plus en plus cet aspect du premier maillon, cet aspect d'être autonome et de prendre la meilleure décision pour soi-même. Et l'individu devient de plus en plus contrôlé ou endoctriné, je sais pas comment le dire, par les entités supérieures. Et ça, ça me fait très peur.
Oui, c'est exactement ça. Puis tant que... Parce que pour couper le premier, le deuxième maillon, puis tout ça, la seule façon de le faire, c'est en mettant de la réglementation, en fait, en mettant des lois qui nous empêcheraient de faire des trucs de par nous-mêmes, ce qu'on peut voir souvent en Europe.
Et c'est une centralisation des pouvoirs aussi.
Oui, c'est ça. Et en centralisant les pouvoirs, mais aussi, pendant un certain temps, je veux dire, si pendant deux générations, tu t'es pas débrouillé par toi-même, puis t'as pas appris ça, tu l'as pas montré à tes enfants, ben ça va se perdre éventuellement, puis ils auront plus de problèmes. Je veux dire, ça va être centralisé, ça va rester centralisé, parce que de toute façon, les gens dans le bas, ils sont pas capables, ils ont pas ces capacités-là.
Je suis tout à fait d'accord. Puis ça, non, c'est juste que ça me fait penser un peu à, comme un animal sauvage qui est en captivité. Après une ou deux générations, justement, cet animal-là, tu pourrais jamais le remettre dans son état sauvage parce qu'il risque d'être... il va avoir gardé certains instincts, mais moi, à mon avis, l'essentiel va être disparu. Il risque d'être beaucoup plus vulnérable que si on l'avait laissé dans son habitat naturel, là. Alors c'est un peu, l'humain est une espèce humaine, une espèce animale, je veux dire, puis dans le sens c'est enlève-lui de ses instincts, enlève-lui ses instincts et peut-être qu'après 2, 3, 4 générations justement ça va être disparu et là il arrive quelque chose et on va devenir encore plus vulnérable.
Ben ça, c'est exactement ce que le socialisme est en train de faire, dans le fond, c'est qu'on enlève vraiment ces capacités-là de se débrouiller par nous-mêmes parce qu'on sait que de toute façon, tu sais, c'est comme tu rouvres la porte, moi ça me fait tellement rire, tu sais, je rouvre la porte à mon chien, il va se sauver, puis tout ça, il revient. Pourquoi? Sais-tu comment aller chercher de la bouffe, là? Il est libre, il est totalement libre.
On a socialisé nos animaux, Julie.
On a socialisé. Non, mais c'est vraiment vrai. Des fois, j'y regarde, là. Puis tu sais, tu vas voir, mettons, si tu t'apprivoises un animal sauvage, puis tu lui donnes la bouffe à tous les jours sur ton perron, ben écoute, il y a la forêt au complet pour aller chasser, mais à chaque matin, il va venir sur ton perron. Il sait que c'est facile. Puis, ben écoute, aller chasser, là. C'est
ben c'est pas juste plate. C'est compliqué. C'est plus compliqué que de juste se pointer chez quelqu'un puis d'avoir ça devant ton visage, non? mais
tiens, on parle de ça, puis on a vraiment l'impression que c'est tellement simple, pas compliqué. Mais semble, je comprends pas pourquoi des gens comprennent pas.
Je pense
ça.
Qu'ils comprennent. Moi, en fait, je pense qu'il y en a plusieurs qui comprennent, mais c'est l'étape d'y aller. Comme moi, je pense au point de vue personnel, comment on vit en ce moment. Je crois à cette approche-là. J'aimerais bien aller au-delà, mais en ce moment, actuellement dans lequel on est excessivement vulnérable. Écoute, je vais dans un complexe d'appartements. Trois quarts des choses sont en storage. Je peux pas faire, parce que l'appartement est tout petit, je peux pas faire une commande. Mes commandes sont limitées, fait que je vais peut-être deux, trois fois par semaine. Demain matin, il arrive quelque chose. Oui, on a des réserves un peu partout, mais on les a pas là, là. On est très vulnérable. C'est très difficile, dans le contexte dans lequel on est, d'appliquer ça. Je veux y arriver, et c'est pour ça qu'on est en train de travailler pour se rendre à l'étape où est-ce que là, on va s'y mettre, et là, on veut mettre ça en pratique. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, ou qui sont comme nous, où est-ce que ils peuvent pas se permettre de vivre à 50 kilomètres de leur travail, où ils peuvent pas se permettre d'accumuler des choses parce qu'ils ont pas la place, ou ils ont pas l'argent, ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment une question de pouvoir, une question de vouloir, et tu sais, d'être capable de le faire aussi.
Ben non, mais moi je dis toujours, c'est une question, c'est beaucoup plus une question de vouloir avec, ben, le vouloir avec le coup de pied dans le cul qui suit, parce que bon, tu sais, je veux dire, souvent, on veut, oh, ouais, un moment donné, que l'année prochaine, puis tu sais, finalement, tu finis jamais par y arriver, que, mais, tu sais, je veux dire, tu peux commencer déjà à, tu sais, même si c'est que, même si t'as pas si t'as pas les ressources économiques ou, tu parlais de l'espace, tu peux juste t'informer, déjà là c'est bon, puis t'informer, t'éduquer sur comment, tu sais, moi je l'ai fait de l'essai erreur, mais si j'avais été m'informer avant, là, il y a bien des affaires que j'aurais pas fait pour rien, parce que, tu sais, j'ai dit, bon, on se lance, bon, on est allé chercher des graines, mais tu sais, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait, là, tu sais, c'était ma première expérience, mais de s'asseoir, puis d'aller apprendre. Comment, qu'est-ce que ça te prend, toi, pour ta famille? Combien tu as besoin pour essayer d'être le plus... Puis même si c'est juste 25% que tu es capable d'aller chercher, ben c'est 25%.
Que tu vas avoir acquis, oui. Mais c'est ça, je pense que la première chose, c'est d'avoir un intérêt. C'est de dire, wow! Tu sais, de réaliser la situation dans laquelle on est, de dire à quel point on est vulnérable. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les gens en grande ville ou en banlieue, ils sont très vulnérables sans le savoir. Une fois que tu as acquis cette étape-là de comprendre que oui, il y a une forme de vulnérabilité, il arrive quelque chose, on peut être mal pris. Après ça, c'est de se renseigner, puis de trouver les moyens les plus faciles et les plus accessibles de mettre en pratique. Et graduellement, tu y vas par étapes. Et tu regardes selon tes besoins, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait.
Puis il y a plein de ressources sur le net où vous pouvez aller pour, il y a des gens, des familles, mettons des familles de quatre, qui sont complètement indépendants, puis ça leur prend une heure seulement par jour de travail. Donc, puis regarde, il y en a des ressources, puis vous pouvez aller les voir, puis vous pouvez aller écouter des vidéos, il y a plein de livres à ce sujet-là, de sites web. C'est pas les ressources qui
puis je pense qu'on devrait en mettre, c'est sûr, on va essayer d'en trouver puis d'en mettre sur notre, bon, de un, comme on disait, on allait mettre le site de Vic, qu'on va le mettre sur notre page, et peut-être trouver des exemples sans que ça soit l'extrême, parce que souvent c'est ça, c'est que nous, on nous présente juste les choses extrémistes, parce que tu vois le gars qui vit dans une ferme, même pas, c'est comme il vit dans un bunker à 500 000 de la civilisation, puis t'as l'impression que c'est un ours, là. Sur ce, je regarde le temps passé, on va conclure et on va se reparler la semaine prochaine. Entre-temps, ben, c'est comme, allez voir sur notre page, libertariens.com, puis
libertarien avec un S!
Avec un S, c'est ça. C'est pour ça que je dis les libertariens. Mais libertariens.com. Puis, écoutez-nous, on veut remercier en même temps, là, on le fait pas souvent, mais on veut remercier notre diffuseur qui est à Radio H2O.ca. Puis, on se reparle la semaine prochaine.